Passé au crible. Trouvez partout en France la maison de retraite qui vous convient à l'aide d'une carte interactive et d'un dossier spécial sur franceinfo.fr. Le classement France Info 2013 des maisons de retraite en exclusivité sur franceinfo.fr. France Info, une radio de Radio France.
France Inter.
La voix est libre.
Il paraît que là-bas on y est, donc c'est avec Daniel Mermet. Là-bas, si j'y suis, c'est maintenant sur Inter.
Le prochain repère des amis de Nicolas Sarkozy aura lieu samedi prochain à Fleury-Mérogis. En raison de l'affluence, il ne se tiendra plus dans les cellules 45 et suivantes, mais dans la grande cour de l'établissement. Christine Lagarde viendra nous parler de son passage devant la cour de justice et nous présentera son grand diaporama sur tous les pays qu'elle a contribué à ruiner à travers le monde. Et pour finir, Jérôme Cahuzac et Claude Guéant nous interpréteront leur dernier grand tube. Savez-vous planquer vos sous à la mode, savez-vous planquer vos sous à la mode de chez nous. Venez nombreux.
Bonjour, je m'étonne qu'il n'y ait pas eu d'émission complète sur Dominique Vénère, qui était un excellent écrivain. J'attends ça avec impatience.
Je vais vous faire une émission.
Voilà.
Voilà, bah, c'est largement.
Bonjour, un auditeur de là-bas si j'y suis vient d'appeler aujourd'hui jeudi pour laisser un message sur le suicide de Dominique Vénère. C'est un idéologue d'extrême droite, c'est quelqu'un qui a fait paraître un livre sur 30 000 ans de civilisation européenne dans lequel il nous met en garde contre le danger musulman. Il se trouve qu'hier soir sur FR3, il y avait une émission de Michael Prasant qui a publié un documentaire sur les frères musulmans, mais dans lequel le message est curieusement le même que celui de Dominique Vénère. Méfiez-vous des frères musulmans. Évidemment, vous me direz, c'est pas pareil les frères musulmans et les musulmans. Mais dans les temps qui courent, je trouve tout de même que le raccourci est très inquiétant. Je trouve grave que FR3 diffuse ce genre de documentaire aujourd'hui dans ce climat de haine qu'entretient Dominique Vénère, parce que c'est pas à cause du mariage qu'il s'est suicidé. C'est au sujet des musulmans.
Merci pour l'émission sur Jean Zé. Je ne savais pas qu'il avait été tué par des salauds de droite, ni qu'il avait créé le Festival de Cannes. Je ne crois pas qu'un homme de gauche comme Jean Zé serait joyeux de voir tous ses stars payés outrageusement, empêchant les autres intermittents du spectacle d'être payés de façon correcte. Jean Zé, pour la solidarité et le partage, le fricocosme du Festival de Cannes, c'est, je pense, l'inverse de ce qu'il voulait, l'amour du bien public.
Alors, je suis hors l'année, j'ai fait mes études au lycée Jean Zé. Je me suis aperçu en écoutant votre émission que je connaissais très très peu de choses de cet homme. Donc j'imagine que pour la majorité des Français, c'est quasiment un inconnu. Alors, ce qui m'a frappé, c'est vraiment la quantité de choses qu'il a faites durant ses 3 années de ministère, et ça laisse rêveur. On voit l'immobilisme aujourd'hui. Je suis encore plus fier d'avoir eu mon bac au lycée Jean Zay. Et maintenant, quand on va me dire que t'es d'Orléans, la ville de Jeanne d'Arc, je dirais non, je suis de la ville de Jean Zay.
Bonjour, je viens d'écouter votre émission sur Jean Zay. Je suis né en 1938 et j'ignorais tout de Jean Zay jusqu'à son nom, jusqu'à ce que je lise Souvenirs et Solitude. J'ai découvert un homme admirable d'intelligence, de droiture, un vrai républicain. C'est un vrai crime contre l'intelligence que son assassinat. Et les analogies entre cette époque et la nôtre sont effarantes. Décidément, une certaine droite anti-républicaine, alliée à un catholicisme qui n'a rien d'évangélique, n'a pas changé.
Chut, j'ai entendu des fantômes de Front Populaire. Oui, j'ai entendu des fantômes. Chut.
Moustaki a dû attendre plus de 30 ans pour avoir la nationalité française. C'est Mitterrand qui l'y accorde en 85. De Gaulle, Pompidou, Giscard ne devaient pas trop aimer ce voyageur sympathisant trotskiste après mai 68. 1972, il est sensible à la révolution des œillets, faute de l'avoir dans son pays. Il adapte une chanson du Brésilien Chico Buarque, Fado Tropical. Allez Daniel, si on se remettait un petit fado.
Bonjour Daniel, bonjour à toutes et à tous. Voilà, je voudrais juste parler de Jean Zay. Jean Zay, qui faisait partie du gouvernement de Léon Blum, qui était un personnage extraordinaire. Rien qu'à écouter ses filles, c'est déjà très édifiant, et savoir ce qu'il a fait, quoi. Notamment le festival de Cannes pour écraser la Mostra de Venise qui était financée par le fascisme de Mussolini, et bien d'autres choses, l'école avec la cantine, et enfin pareil avec Léo Lagrange, qui avait fait les congés payés avec un mal de chien parce que la SNCF venait juste d'être nationalisée. Enfin, tous ces hommes-là ne prenaient pas exemple comme nos politiques sur l'Allemagne. Cette Allemagne où on paye les gens à 2 euros, voire 4 euros de l'heure, et où il n'y a pas de salaire minimum. Et il y en a marre.
Salut Daniel, salut les AMG. Je suis très étonné des émissions que j'entends, qui sont toutes intéressantes, hein, le sujet n'est pas là, mais sur toute cette espèce de frénésie commémorative, donc une journée c'est le secrétaire de Jean Moulin, aujourd'hui c'est Jean Zay, donc émission intéressante, mais je trouve que ça fait peser une espèce de chape de plomb qui nous fait bien comprendre que cette république bananière dans laquelle on est en train d'évoluer, on a encore un témoignage ce midi d'un cadre de l'UBS qui nous dit bien que tout le monde en croque dans la classe politique et que Cahuzac, c'est l'arbre qui cache la forêt. Et j'ai l'impression qu'en parallèle de tout ça, on nous propose des émissions d'un petit peu sur le regret d'une époque, de gens qui effectivement luttaient, quand la gauche pouvait, quand la gauche essayait, je vois le titre de l'émission d'aujourd'hui. Je trouve ça très curieux comme paradoxe, très curieux.
Merci pour tous ces messages, chers AMG. Aujourd'hui, on va se balader sur le plateau insoumis. Le plateau insoumis, ouais, Tarnac, sa petite épicerie tapis dans l'ombre, Georges Guingouin, le héros méconnu de la résistance, Jean Sioux, son monument aux morts avec l'inscription « Maudite soit la guerre », le camp de la Courtine, où en 1917, des soldats russes emprisonnés formèrent un soviet. Et puis Villedieu, Faux-la-Montagne, où les appelés en Algérie refusaient de partir et se sont arrêtés, ils refusaient de partir. Et puis dans le lointain, on entendra peut-être chanter les maçons de la Creuse, ceux qui ont construit le Paris d'Haussmann, que nous connaissons toujours aujourd'hui, et qui ont rapporté dans leur pays le plateau de Mille Vaches, le Limousin, les ferments révolutionnaires parisiens. Alors toutes ces histoires, toutes ces figures, toutes ces épopées se racontent toujours dans cette région, et bien au-delà bien sûr, et tout ça c'est joli, c'est plein de mots de résistance, de rébellion, d'insoumission, de révolte, etc. Mais c'est bien joli, mais c'est un peu nostalgie. Alors est-ce qu'aujourd'hui le combat continue ? Eh bien aujourd'hui, c'est le 25e anniversaire d'une entreprise singulière qui s'appelle Ambiance Bois. C'est à côté de Faux-la-Montagne. Et c'est une coopérative autogérée que nous avions rencontrée une première fois en 2004 et qui aujourd'hui, eh bien, voilà, ça marche, ça prospère même. Ils sont 25 salariés et on va les retrouver. Et c'est l'occasion d'une balade, eh ben, dans ces contes, dans ces légendes, dans cette mémoire, dans ces histoires, mais aussi dans tout ce qui se fait dans ce coin aujourd'hui en matière d'économie sociale et solidaire, en matière d'alternatives concrètes et d'utopie politique très très éloignée des soucis qui pouvaient être ceux de Madame Michèle Alliot-Marie. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale au 01 56 40 37 37.
Merci pour cette belle émission sur Jean Zay, mais je ne crois pas avoir entendu qu'il était le créateur d'une des plus grandes cités universitaires de France, c'est sûr, d'Europe, je crois aussi, qui s'appelle la cité universitaire d'Antony, dans les Hauts-de-Seine, qui s'appelle donc la cité U Jean Zay. On avait sollicité Daniel pour faire des émissions sur cette cité universitaire qui a été menacée par la droite, en l'occurrence M. Devedjian, qui maintenant pourrait être sauvé, mais ne semble pas beaucoup intéresser le gouvernement. On n'a pas de nouvelles, je sais pas, une certaine nonchalance à s'occuper de cette cité universitaire alors que tant d'étudiants cherchent un logement.
Salut les résistantes et résistants de la nouvelle modernité, les smicards, les ignorés, les écrasés de la finance. Venez rendre hommage aux courageuses et courageux communards de 1871. Venez vous souvenir à 14h30 samedi 25 mai au Père Lachaise entrée rue des Rondeaux au mur des Fédérés. Et pour se souvenir et rendre hommage aux courageuses et vaillantes communardes, oubliées ici et là dans les fosses communes, réclamez à votre libraire le tout nouveau Petit Dictionnaire des femmes de la commune aux éditions Le Bruit des Autres. Et vive la commune!
Ouais, salut à tous. Hier matin, j'ai interpellé Raffarin sur le fait qu'il disait qu'il n'y avait pas plus de manipulateurs et de voyous dans la sphère politique que dans les autres corporations. Je l'ai interpellé en lui disant que la politique, c'était pas un métier. Ce à quoi je n'ai pas pu répondre, c'est qu'après, il a développé en disant que si la politique, il fallait quand même être spécialiste et être au courant des choses. Je lui rappellerai juste que le Titanic a été construit par des spécialistes et pas l'Arche de Noé. Pour ce qui concerne le Pays de Fayence, ce soir, là, il y a l'Université populaire du Pays de Fayence qui propose une conférence sympa. C'est à 18h, c'est au village de Tourette. Et puis, il y a Ruffin qui va faire le tour des repères au mois de juillet. Donc, si vous êtes en vacances au mois de juillet à Aix, Marseille, Aubagne, sur le canton de Fayence ou à Nîmes, vous aurez l'opportunité de croiser François Ruffin qui présentera son bouquin que Mermet vous a présenté il y a deux jours. Ciao, vive, portez-vous bien.
Francine dort. Aimable friandise, sa poitrine sort de sa chemise. J'adore.
La D992. Alors on est à une bonne heure en voiture de Limoges. À quelques kilomètres, pour les connaisseurs, de la Ville-Dieu. Et sinon, plus connu, on est aussi à quelques kilomètres de Tarnac, ici sur le plateau de Mille Vaches. Voilà, faux FAUX, la montagne, altitude 720 mètres, ses lacs, sa forêt et son terrain de camping. Mais pas que! Camarade, 25 ans d'autogestion et de coopération, viens visiter l'exposition des 25 ans.
On ne produit pas n'importe comment, on travaille ensemble, on décide ensemble, on gère ensemble.
On s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ce soit autrement, que ce soit différent ? Et en gros, je caricature un peu, mais on s'est dit, bon, bah, y a deux manières de changer les choses. Soit on fait de la politique, soit, puis c'est cette voie-là qu'on a choisie, on y va de manière plus expérimentale, sur du concret, on va monter une entreprise pour y travailler autrement. Il y avait vraiment ça dans le début d'Ambiance Bois, qu'on avait envie de bâtir autre chose. Pour nous d'abord, pour nos vies. Et puis, en se disant, c'est aussi une manière de répondre à la question, qu'est-ce qu'on peut faire ?
On gère ensemble !
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est là-bas si j'y suis avec Antoine Chao, le plateau Insoumis. Flight number 2, arriving from
New York. Et voilà un tronc d'arbre.
Un noyau de mélèze.
C'est un noyau de mélèze.
D'accord.
Il y a quatre porteurs. Et c'est un bidon de mélèze, le cœur de mélèze avec le gâteau d'anniversaire d'Ambiance Bois, 25 ans d'autogestion et de coopération. Alors vous avez planté 25 bougies sur
un... C'est le noyau dur de l'entreprise. Qu'est-ce qu'on est cool.
Voilà les 25 ans d'Ambiance Bois, 25 ans d'autogestion, 25 ans de coopération à Faux-la-Montagne.
Alors voilà, 25e anniversaire d'Ambiance Bois, c'est pareil, ils ont le même âge que nous, ils ont le même âge que la passée qui suit. Et il nous avait raconté en 2004 comment cette bande de jeunes, des scouts qui se connaissaient depuis leur enfance, avaient envie de vivre autrement et d'entreprendre autrement. Et comment ils avaient étudié, réfléchi, et puis comment ils s'étaient retrouvés à cinq dans une deux chevaux dans cette région du plateau des Mille Vaches, en train de suivre un chasse-neige, je me souviens de cette histoire, parce qu'il y avait tellement de neige qu'ils ne pouvaient pas avancer autrement. Et puis voilà, ben ils se sont fixés là, et 25 ans après, ils sont toujours là.
Ça doit être bien d'être de quelque part, d'en partir et puis d'y revenir. Quand on est de nulle part, on marcherait sur un plateau, le vent crierait, y aurait pas d'eau, la nuit glaciale et le jour chaud, et puis enfin six jours passés, on arriverait dans la vallée en traversant le bois de roger. En longeant le champ de Marie-André, c'est tout à fait comme autrefois. La Syrie coupe toujours du bois. Ça doit être bien d'être de quelque part, d'en partir et puis d'y revenir quand on est de nulle part. La Syrie coupe toujours du bois, me voilà revenu chez moi. Bien que les chiens, quand je passe, aboient, y a de belles fleurs chez le curé. Je vais au café chez le gros Pelé, qu'a pas plus de cheveux que l'an dernier. Tous les copains sont attablés, je crois bien que je vais rester 10 jours. Y'a pas de raison de marcher toujours. Ça doit être bien d'être de quelque part, d'en partir et puis d'y revenir quand on est de nulle part.
Alors y a beaucoup de monde hein, pour venir souffler les 25 bougies, non ?
Oui, oui, pas mal. On est plutôt contents, malgré la pluie battante qu'il y a eu ce matin.
Alors vous, Chantal, vous êtes ambiance bois, vous êtes, salariée, coopératrice.
Je suis salariée et coopératrice, oui. On parle plutôt de l'équipe de salariés que de l'équipe de coopérateurs. Voilà, hein, c'est plutôt le terme employé. Moi, je suis là depuis une douzaine d'années. J'ai fait plein de choses dans l'entreprise. Depuis le siège jusqu'à la vente, on faisait un peu d'administratif aussi des fois, et voilà.
Alors c'est quoi Ambiance Bois, en deux mots ?
En deux mots. C'est une entreprise de production qui transforme du mélèze, donc un résineux qui pousse sur le plateau de Mille Vaches, le mélèze et le douglas, qui transforme ces bois-là en matériaux pour la maison, donc en lambris, bardage, bardeaux de toiture, et qui a aussi une partie fabrication, construction de maison. Et là, aujourd'hui, ça s'est beaucoup développé parce qu'on était on faisait un peu moins de ventes de produits et qu'il y avait beaucoup plus de demandes sur les chantiers, qu'il y avait des gens qui étaient motivés pour faire du chantier. Et donc, on a aussi embauché des gens et des jeunes, beaucoup, enfin oui, pas mal, 2-3, qui nous ont rejoints, qui, eux, étaient partie prenante pour faire du chantier, beaucoup, quoi. Et c'est une entreprise donc qui est autogérée. On a tous le même niveau de salaire et les décisions sont prises collégialement, quoi. Voilà, c'est bien, quoi.
Donc 25 ans déjà, mais ce n'est qu'un début, quoi.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Voilà, donc juste quelques mots d'explication. Et après, on va mettre la Syrie en route. Notre première phase de fabrication qui réceptionne des gros billons. Ils vont passer dans cette première machine qu'on appelle un châssis alternatif parce qu'il fait un mouvement alternatif hein, de va-et-vient et qui, en un seul passage, va nous débiter nos différentes planches. Le gros noyau central va être pris par un deuxième châssis qui va l'extrémité en planche parallèle de l'autre côté. Quand on travaille ici, on est 5 personnes. Une mini chaîne de production avec une personne qui est en entrée de sillage, ça sera Sophie aujourd'hui, qui gère tout ce qui se passe à cet étage. Une personne qui est sur le chariot élévateur, qui gère l'approvisionnement en bois et l'évacuation de tout ce qu'on produit. Deux personnes qui sont au tri des bois et à l'empilage. Et vous avez une troisième machine là, qui récupère les planches latérales pour les mettre à largeur, pour toutes les planches qui sont plus petites que ceux dont on a besoin. On essaye au maximum de se partager le travail, et en particulier de se partager des tâches très répétitives, et des tâches répétitives et des tâches de manœuvre en ambiance bois, on en a beaucoup. Et maintenant, ça va devenir très, très bruyant, de toute façon, je vais pouvoir parler.
Du métro, tu comprends, on vient là et on entend le bruit du métro.
Parce que toi, Catherine, tu es à l'initié aussi au départ de cette aventure.
Oui, oui.
Et tu es parisienne.
Et ben, de la région parisienne, oui, oui. On est tous venus, les 6 du début, on est tous venus de région parisienne.
Beson, dans le 95, cité des Sablons. 6 compagnons dans un appartement. Anne, Catherine, Marc, Philippe, Olivier et Michel. La préhistoire d'Ambiance Bois. À Beson, le projet d'une entreprise de transformation du bois se dessine dans l'idée d'expérimenter une façon de travailler autrement. Faire une scierie. Nous voulons vivre différemment un travail de production, c'est-à-dire refuser la division traditionnelle, décision-exécution, intellectuelle-manuelle. Nous voulons prouver qu'il est possible de vivre positivement un travail qui bien souvent est vécu comme une peine. Ce qui nous motive, l'organisation du travail. À l'époque, nous sommes très éloignés des préoccupations environnementales et écologiques.
Alors tout ça doit vous faire penser aux années 70, à l'époque qu'on a appelée Baba Cool, moment où des jeunes gens échevelés partaient vers le Larzac ou vers l'Ardèche, la Drôme, pour faire du fromage de chèvre et vivre plein d'aventures en chantant les chansons de Georges Moustaki. C'est sans doute un peu les mêmes horizons que poursuivent aujourd'hui ceux de cette région, du plateau des Mille Vaches, et là où nous sommes, mais ils sont beaucoup plus sérieux aujourd'hui. Ils ont étudié leurs coûts et ils ne répugnent pas du tout à s'inscrire dans la vie politique locale, voire même devenir président de la communauté de communes du plateau de Gensioux, ce qui est le cas de Thierry Le Tellier.
Thierry Le Tellier, je suis le maire de La Villedieu et je suis le président de la communauté de communes d'ici, là, donc plateau de Gensioux.
Alors La Villedieu, c'est à quoi? C'est à 5 km ici de Folamontagne et d'Ambiance Bois, de cette entreprise. Alors ça représente quoi cette entreprise pour ce territoire?
Ce territoire. Bah, en fait, ce que ça représente, c'est une expérience donc, qui est née il y a 25 ans et qui est née justement en même temps que la création de la communauté de communes. Et ça a été le premier atelier relais de la communauté de communes. C'est-à-dire qu'il y a une intervention de la collectivité territoriale en achetant le site, en fait. C'était une fermette qui était à vendre. Avant, c'était un espace agricole. Et donc, il y a eu une location-vente à cette jeune entreprise. Et ça représente, en fait, aujourd'hui, avec le recul, ce qu'on peut dire, c'est voilà, il y a eu une prise de risque. Des jeunes Parisiens qui arrivent avec un projet sur un territoire qui est quand même particulier, par sa démographie, par son histoire politique, par sa désertification. Et donc, voilà, c'est la prise de risque de politique pour accueillir un groupe de jeunes qui montent une entreprise, qui s'implantent sur un territoire et qui vont influencer en fait le devenir de ce territoire. Parce que il y a Ambiance Bois, il y a l'entreprise, et puis après il y a en fait tout ce qu'ils ont fait avec d'autres, hein, pas tout seul, d'autres gens qui commençaient à venir ici et puis des gens qui habitaient ici, qui ont donné une certaine orientation basée justement sur la solidarité, sur l'accueil, sur la culture, le montage de projets collectifs et tout ça. Ce territoire, il avait déjà une espèce d'histoire à la fois sociale et politique. Évidemment, c'est pour ça qu'Ambiance Bois est venue ici, mais Ambiance Bois, à la fois par le côté entreprise et le côté après implication dans la vie du territoire et montage de projets divers et variés, a fait que voilà, c'est vraiment. On peut dire qu'aujourd'hui, avec le recul, enfin même assez vite, on a vu que c'était un coup de maître en fait, hein, de l'implantation d'Ambiance Bois sur ce territoire.
Parce que 25 emplois aujourd'hui dans une petite commune comme Faux-la-Montagne, c'est énorme quoi.
Oui, c'est énorme. Et puis après, au-delà de ces 25 emplois et donc de ces, en gros, de ces 25 familles qui sont implantées ici, eh bien, il y a tout ce que ça a mis en branle. Il y a eu la création de Télé 1000 Vaches, hein, sans doute une des plus vieilles télés locales en France et qui perdure et où il y a 5 emplois. Aujourd'hui, 25 à 30% des emplois à Faux-la-Montagne sont dans l'économie sociale et solidaire. Voilà, vous avez une association de formation populaire, vous avez une société de rédacteurs où les gens sont venus parce qu'ils étaient actionnaires d'Ambiance Bois, ils sont partis de Nice pour venir s'installer à Faux-la-Montagne. C'est une terre rude, une terre de moyenne montagne. Il y a tout un effet d'accélération et d'entraînement et qui va au-delà des 25 emplois des salariés d'Ambiance Bois.
'82-84, apprentissage. C'est l'époque où ces néophytes arpentent foires et salons, visitent scieries et entreprises et apprennent des mots nouveaux. Circulaire, déligneuse, twin, radial, ruban, châssis. 1984, arrivé à Faux, trois maires accueillant sur le plateau. Alors François Chatou, maire de Faux-la-Montagne, en 84. On ne peut pas se payer le luxe de choisir qui on accueille. On accueille tout le monde et si la moitié des projets capotent, eh bien il y a l'autre moitié qui marche.
Danielle Restoin, c'est une vieille amie de là-bas, si j'y suis. On s'est rencontrés il y a je ne sais combien d'années. Elle était encore prof à l'époque dans un lycée professionnel, et avec ses élèves, elle avait travaillé ben justement sur la mémoire de sa région, à Villedieu, à Faux-la-Montagne, où, au moment de la guerre d'Algérie, des appelés, des rappelés avaient refusé de partir, et s'étaient arrêtés dans ce village, et on avait fait un sujet là-dessus. À partir de là, Daniel Restoin et ses amis et ses copains ont créé une association qui s'appelle Mémoire à Vif, qui fonctionne très très bien à Limoges et dans la région. Daniel Restoin.
Alors, Daniel Restoin, ici on est à Gensioux, hein, c'est ça ?
Tout à fait, Gensioux, donc qui est le centre de ralliement de tous les pacifistes tous les 11 novembre, pour venir se rencontrer devant le monument aux morts, qui a une particularité, avec la phrase « Maudite soit la guerre » et un petit écolier, le poing fermé, qui montre justement cette phrase.
Qui est ce petit écolier alors ?
Le petit écolier qui représente donc un petit creusois, puisqu'il est en sabots, il tient sa casquette à la main. C'est tout à fait dans l'imagerie des années 20, puisque donc le monument a été érigé au même moment que tous les autres monuments aux morts en France. Mais le maire donc socialiste de Gensioux, Couteau, avait, après délibération, il a été décidé donc de faire un monument un petit peu particulier. Et ça a donc été un des rares monuments en France qui relaie ce message de paix et, oui, de refus de la guerre. Et il y a tout autour et dans un périmètre assez restreint, finalement.
Alors, autour, c'est quoi ? C'est justement le plateau de Millevaches, c'est la Creuse ?
Voilà, c'est Creuse, Corrèze
et donc là où il s'est passé tout un tas d'événements qui montrent justement l'esprit de résistance qui existe dans cette région-là, très fortement. Alors par exemple, puisqu'on a le camp de la Courtine, le camp militaire de la Courtine, enfin qui n'est plus d'ailleurs un camp militaire maintenant, longtemps, quand les soldats donc montaient à pied vers le camp de la Courtine, on leur demandait de tourner la tête à droite, bon, pour éviter, effectivement, il ne fallait pas qu'ils regardent et qu'ils voient ce monument aux morts qui était une insulte à l'armée. Pour eux. Voilà. Et la Courtine, où il y a eu des choses aussi, et c'est un épisode là aussi méconnu, de 1917, où les soldats russes qui voulaient repartir, qui étaient au front en France de la guerre de 14, et qui voulaient repartir chez eux faire la révolution, quand ils ont appris qu'il se passait la révolution chez eux, bon, ils ont refusé effectivement de continuer à se battre, ils se sont constitués en soviets, et ils ont résisté, bon, ils ont été entourés par l'armée française, et donc le camp a été bombardé pour mettre à bas cette résistance. Donc ça aussi, c'est un peu exceptionnel quand même.
Alors pourquoi qu'est-ce qu'il y a de particulier sur
Il y a quand même une tradition. Alors, sur ce terreau, ça date quand même du 19e. Hein. Il faut remonter un petit peu parce que les maçons creusois, justement, ont été en contact très tôt, dès 1848, avec les idées révolutionnaires. Et donc, les maçons creusois, ils revenaient chez eux aussi. Ils travaillaient effectivement à Paris, mais ils revenaient chez eux. Et ils apportaient justement tout ce ferment révolutionnaire qui avait effectivement agité les grandes villes et Paris. Et je crois que la base aussi de cette résistance, elle vient de là. De cette force des maçons creusois qui ont transporté les idées révolutionnaires jusqu'à ce plateau isolé du reste du pays, parce qu'on est un petit peu quand même dans le centre de la France et un peu à l'écart.
On travaille ensemble, on décide ensemble, on gère ensemble.
Comme Henri David Thoreau, comme le mouvement Yomango. Comme l'Assemblée populaire des peuples de Wafraka. Comme les faucheurs volontaires, comme le parti Black Panther. Comme le mouvement des sans-terre, comme les anti-nucléaires.
On travaille ensemble, on décide ensemble, on gère ensemble.
Comme le clan du néon, comme les déboulonneurs. Comme le groupe résistance à l'agression publicitaire. Comme les brigades de clowns ou les yes men et leurs phares. Comme le groupe génocide made in France au champ de Mars. Comme le mouvement des Contis défonçant la préfecture. Comme l'appel des 200 mètres, comme l'action des jeudis noirs. Comme l'endurance du réseau, éducation sans frontières. Rocking à Deniso ou Chicken Jao victoire. Les films de Colin Serrault, de Pierre Carl ou Michael Moore. Comme les sites Wikileaks, comme des millions de hackers. Comme SL, Rosa Parks, comme Mandela et Gandhi. Comme Yves Perra Sankara ou Adolfo Kaminski. Comme les peuples d'Égypte, d'Islande et de Tunisie. Comme ce que l'on fait chaque jour modestement de nos vies.
On travaille ensemble, on décide ensemble, on gère ensemble.
Faut couteau, couteau, goutte à goutte, faire remonter tout ça. Faut bloquer EADS d'assaut comme ça des matras. Faut stopper les industriels et faire cesser leurs dégâts. Faut se remonter les manches et dévisser tout leur barda. Faut plus confier les manettes à tous ces playboys de l'ENA. Faut coûte que goutte au goutte à goutte ou pas démonter tout ça. On obéit à nos valeurs et on bâtit de nos bras. On boycotte, on ruse et à l'occasion on leur fout le tarwa.
Il y a à la fois un terreau qui est historique, de résistance, et les réseaux guingouins en 39-45, il y a les éléments de la Courtine, ce contingent russe qui se révolte, qui prend le parti des révolutionnaires en 1917, il y a l'histoire de la vie de Dieu pendant la guerre d'Algérie, il y a toutes ces choses-là, le début du communisme rural dans cette partie-là du Haut-Limousin, et donc tout ce terreau, et après, il y a pour ce petit territoire là de cette zone du plateau de Millevaches le fait qu'il y ait de jeunes élus qui à un moment reviennent ici. Alors il y avait des natifs et puis il y avait des gens comme moi qui venaient de Normandie ou de la région parisienne ou de Lyon qui s'installent ici et qui se disent il y a une expérience à mener. On va la mener évidemment sans beaucoup de moyens parce que c'est une région pauvre économiquement et qui n'est pas tellement soutenue par ni la région ni les pouvoirs publics, même si on nous observe maintenant avec un intérêt particulier parce qu'on a fait des choses. Pour nous, c'est habiter un territoire et produire des choses. Produire des biens alimentaires, des biens matériels, comme ici à Ambiance Bois, où on produit des meubles, des maisons. Hein, franchement, revenir aux fondamentaux, manger, s'habiller, se loger et se cultiver. Et il y a une grande partie aujourd'hui de la politique locale qui est basée aussi sur la culture, sur une culture assez ambitieuse. Et le fait qu'il y ait beaucoup de matière grise ici, parce qu'effectivement, il y a tous ces jeunes qui arrivent maintenant des villes et d'autres pays, de Suisse, de Belgique. Et en général, ce sont des gens, même s'ils sont jeunes, ils ont déjà des expériences de vie collective, de projet collectif. Et ce sont des gens qui, sont, en général, sont très formés intellectuellement, qui ont des très bons bagages. Et cette foison, ce fusionnement de matière grise ici, bah, il fait que, voilà... ça pousse les élus à prendre des risques politiques et à aller justement un petit peu à l'encontre de cette ambiance générale où on dit continuons à concentrer les gens en ville, continuons à favoriser le capitalisme, l'implantation des grosses entreprises, alors qu'on voit bien qu'ici ce qui marche c'est d'abord le petit tissu économique local et c'est les petites entreprises, les PME, l'agriculture. On voit bien qu'ici aussi, il y a un renouveau de l'agriculture. Il y en avait eu il y a 30 ans, il y a 25 ans, il y avait eu des installations de néo-ruraux. Ça s'était un peu affaibli, ce côté-là. Et maintenant, il y a de nouveau, avec le produire et le consommer local, la recherche de produits de qualité, de produits bio et de ça, il y a de nouveau des vagues d'installations et on reçoit beaucoup de gens qui veulent s'installer dans des productions comme ça et accompagner leurs produits, faire des échanges. Il n'y a pas non plus que l'aspect commercial. Il y a beaucoup d'échanges. Hein. On échange du pain contre du temps de travail. On échange des produits agricoles contre du bois, contre du covoiturage. Voilà. Je pense qu'il y a aussi cet élément qui est important. C'est dans nos rapports, il y a aussi beaucoup d'échanges et de gratuité. Quoi. Voilà.
25e anniversaire d'Ambiance Bois, c'est une réussite parce qu'ils ont réussi, dans un contexte quand même pas facile, à déjouer des quantités de pièges dans l'organisation de leur entreprise, par rapport au marché, à toutes sortes de contraintes, et aussi évidemment à surmonter et à déjouer tous les pièges relationnels qui peuvent exister dans ce genre d'entreprise autogérée. Une des personnalités d'Ambiance Bois, au départ d'Ambiance Bois, c'est Michel Lulek, qui est l'auteur d'un bouquin dont le titre disait à peu près tout « Si on travaillait autrement ». Michel Lulek, aujourd'hui.
Alors Michel, vous êtes un des créateurs d'Ambiance Bois, mais maintenant vous travaillez dans une autre structure, hein, ici, sur le plateau, c'est ça ?
Dans une SCOP qui s'appelle La Navette, qui donne essentiellement des informations dans le champ associatif. On est installé à Faux la Montagne, parce que justement il y avait Ambiance Bois, il y avait d'autres structures qu'ils connaissaient sur le coin, et c'est cette dynamique sociale-là qui les a attirés, qui les a amenés à venir s'installer ici. Du coup, je travaille avec eux depuis 5 ans. On fait aussi des choses comme ce guide, donc ça c'est le parc naturel régional de Mille Vaches qui a voulu expliquer à ses élus, enfin aux maires des petites communes ici, ce que c'était que l'économie sociale et solidaire. Par exemple en France ça représente à peine 10% de l'emploi, bon c'est déjà pas mal. En Limousin ça représente 12%, à Faux-la-Montagne c'est 33%, et sur la communauté de communes c'est 40%. Et à l'intérieur, on présente une quinzaine d'initiatives représentatives de ces démarches-là. Ça va de A à Q, hein, on n'est pas allé jusqu'à Z, Ambiance Bois, à Quartier Rouge, par exemple, qui est une association qui réanime tout un quartier à Feltin autour de la gare. Mais ça peut être aussi la ressourcerie, recyclerie de Desmoutiers, le monde à l'envers. Ça peut être des expériences agricoles comme le champ des possibles, champ libre. L'association Énergie pour demain, un théâtre en SCOP sur le plateau, la Kélidouane, qui existe depuis 25-30 ans eux aussi. Il y a À Tout Bois. Bon, bah, À Tout Bois, c'est une association qui est une menuiserie associative à disposition de gens qui viennent eux-mêmes faire leurs travaux, alors accompagnés par quelques personnes compétentes. L'association De Fil en Réseau qui a été créée pour accueillir les gens qui veulent venir s'installer sur le territoire. Puis il y a quand même des participations croisées. Par exemple, là, on a créé il y a 3-4 ans une SIC, Société Coopérative d'Intérêt Collectif, autour de la problématique du logement. Et ben, dans cette SIC, on retrouve aussi des structures publiques comme par exemple le parc naturel régional ou la communauté de communes ou la mairie de Faux-la-Montagne qui sont au capital de cette SIC.
Alors, et l'histoire de Tarnac est à une dizaine de kilomètres d'ici. Est-ce que ça a eu un impact sur toutes ces dynamiques? Bon, parce que c'est issu aussi de tous ces mouvements, j'imagine, au départ.
L'impact que ça a pu avoir, c'est plutôt l'impact d'accentuer encore l'image d'un plateau de 1000 vaches résistants, rebelles, etc. On a vu fleurir après cette affaire-là sur les panneaux et sur le territoire des bombages avec écrit « plateau insoumis ». Voilà, bon, on ne disait pas « plateau insoumis » il y a 10 ans, donc voilà c'est ce que ça a peut-être permis, cette affaire-là. Tous ces gens-là ont des pratiques qui vont à peu près dans la même direction et dans le même sens. Et c'est sur ces pratiques-là qu'on se retrouve. C'est-à-dire qu'on fait ensemble, qu'on est habitants de ce territoire. On n'est pas si nombreux que ça. Et donc, même si on n'est pas d'accord sur tout, tous ces réseaux-là se croisent pas mal. Alors, des fois, très ponctuellement, autour d'un événement ou d'une action. Voilà, il y aura, je pense qu'aujourd'hui, aux 25 ans d'Ambiance Bois, il y aura plein de gens de ces différents réseaux qui vont se croiser.
C'est dans cette ferme à l'abri des regards que vivait la petite communauté libertaire.
France 2, 11 novembre 2008.
Une dizaine de personnes, des femmes et des enfants. Installés depuis 4 ans à Tarnac, 350 habitants, ces nouveaux voisins étaient parfaitement intégrés. Trois d'entre eux tenaient d'ailleurs la seule épicerie du village.
C'est des gens très honnêtes, très serviables, très gentils, qui ne s'occupent pas de personne du tout. Hein. Bon, on parlait politique, mais on parlait politique, on ne parlait pas d'aller mettre le feu partout. Hein. C'était pas la bande à Badère, hein. Ni les brigades rouges.
Mais certains des membres de cette communauté, au-dessus de tout soupçon, étaient suivis depuis longtemps par la police. Selon les enquêteurs, en mars 2006, certains d'entre eux participent aux manifestations violentes pour le retrait du CPE, comme ici à la Sorbonne. Un an plus tard, c'est à Rostock, en Allemagne, qu'on les retrouve protestant contre un sommet du G8. Tous appartiendraient à la mouvance anarchiste des ultras de gauche. Le chef du groupe interpellé hier a 34 ans. Il est issu d'un milieu aisé et a longuement étudié la philosophie. C'est lui qui aurait incité ses membres à passer à l'action radicale, notamment la semaine dernière à Vichy, lors de manifestations violentes contre le sommet sur l'immigration. Les actions de sabotage du réseau SNCF auraient été une étape supplémentaire.
Alors, l'IPNS est le journal d'information et de débat du plateau de 1000 vaches.
Ça veut dire théoriquement imprimé par nos soins. Donc tous les trimestres, on sort 16 pages d'actualité, enfin d'actualité plutôt de débat autour de ce qui fait l'actualité du moment sur le plateau. Donc on parle beaucoup de forêt.
Sur le numéro 41 d'IPNS, les cartes, ça sert d'abord à s'approprier le territoire. Encartez-vous un atelier de géographie populaire sur le plateau.
Oui,
c'est l'éducation populaire à la géographie, c'est ça?
Oui, c'est
à la cartographie.
Tout à fait. C'est l'association Pivoine qui a organisé ça, pas toute seule du reste, avec d'autres associations. Et donc chacun était invité à réfléchir avec l'outil cartographique pour essayer de produire des documents un peu lisibles qui permettent d'avoir une vision de ce qui se passe sur le territoire ici. Dans le dernier numéro... Là,
alors numéro 42, oui. Du plateau de 1000 vaches à Notre-Dame-des-Landes, la solidarité des villages gaulois.
Oui, parce qu'il y a ici beaucoup de gens qui sont mobilisés autour du soutien à Notre-Dame-des-Landes et entre autres des gens d'Ambiance Bois, mais beaucoup d'autres ici sur le territoire qui ont construit une cabane, qui sont allés installer là-bas sur le campement.
Alors, il y a beaucoup d'initiatives, de mouvements de résistance, hein, bon, déjà depuis 1917, donc ici sur le plateau. Et c'est dû à quoi alors? Qu'est-ce qu'il y a de particulier ce plateau de 1000 vaches?
Alors, ce que je peux dire, c'est que ça crée de fait une espèce d'ambiance qui alimente ce qui se passe aussi aujourd'hui. C'est-à-dire que finalement, même si on ne savait pas qu'il y avait une mutinerie à Courtine en 1917, on est très fiers de s'en sentir quelque part les héritiers, comme l'histoire du monument mort de Jean Sioux, maudite soit la guerre, comme la révolte des gens de la Ville-Dieu quand ils arrêtent le convoi de militaires qui partent en Algérie pendant la guerre d'Algérie et qui les aident à aller se cacher dans les fermes. Donc il y a vraiment il y a une espèce d'ambiance qu'il est peut-être bon de cultiver finalement pour dire que c'est aussi un territoire ici où il y a beaucoup de gens qui sont un peu à contre-courant et que bah, ici, ma foi, c'est assez possible.
Alors vous, justement, vous faites déjà partie presque de l'histoire, hein, comme ça, de résistance au système du plateau, avec Ambiance Bois qui a maintenant un quart de siècle ici d'activité.
Oui, d'autogestion, de coopération, de décision collective. En tout cas, ce qui est très important, au-delà des mots, c'est les pratiques. Et c'est ça qu'on veut mettre en évidence ici, c'est ça qu'on met en évidence dans le réseau repas dont fait partie Ambiance Bois, réseau d'échange et de pratiques alternatives et solidaires. C'est pratique, c'est-à-dire que... on peut avoir un discours, mais nous, ce qui nous importe, c'est que effectivement, les décisions se prennent bien ensemble et que derrière le mot autogestion, il y a ça. Et c'est ce qui se passe ici à Ambiance Bois, mais c'est ce qui se passe aussi dans d'autres initiatives sur le plateau, assez nombreuses, qui sont cousines, complices, voisines, chacune dans leur spécificité, dans leur indépendance et dans leur propre histoire.
Clarté confuse des Pléiades qui luisent à travers le vitrail.
Je m'appelle Francis Juchereau.
Alors, sur ce plateau, il y a aussi l'association Le Refuge des Résistances, c'est ça?
Oui, c'est ça. Le Refuge des Résistances, c'est l'avenue d'Armangatti qui a provoqué, d'une certaine manière, la création de cette association.
Alors, qui... Mais pourquoi Armangatti? Qu'est-ce qu'il a à voir dans cette histoire?
Armangatti, à 18 ans, a fait la résistance ici. Alors, c'est le début de son aventure, d'ailleurs, en tant qu'homme à Tarnac, d'ailleurs sur la commune de Tarnac, planqué par des paysans communistes dans un village, enfin, ce hameau s'appelle La Berbérole, à Tarnac. Et en 1942, il s'est retrouvé avec trois jeunes cheminots lyonnais qui fuyaient le travail forcé, ici, cherchaient un endroit pour faire de la résistance, etc. Il s'est retrouvé dans, enfin, à la limite de la zone de maquis de Guingouin. Effectivement, ceux qui l'ont planqué étaient des communistes organisés par Guingouin dès 1941, puisque Guingouin a sillonné la Haute-Corrèze de ferme en ferme pour réorganiser, puis remettre en route et mettre en route la résistance à partir des communistes qui étaient complètement dispersés, enfin, idéologiquement. Enfin, du fait de la débâcle, du fait de la répression, du fait de la répression qui était tombée sur les communistes après le pacte germano-soviétique, etc. Et il a participé avec les troupes de Guingouin donc, à la libération de Limoges. Donc voilà, donc Gatti a commencé à écrire d'ailleurs à ce moment-là. Donc ça a été une expérience fondamentale pour lui. Bon, on connaît après tout son parcours, hein, de journaliste et puis de dramaturge, de ses ruptures après 68, etc. Donc il est revenu ici d'une certaine manière pour boucler la boucle en 2005. Il nous a contactés puisque moi, je fais partie d'une association qui fait des débats publics pour réfléchir sur les temps présents, qui s'appelle le Cercle Gramsci à Limoges. Quelque chose qui procède d'un esprit de dissidence puisque... ce sont des anciens communistes dans les années 80 Ben, de vieux militants communistes même qui ont créé cette association après avoir quitté le parti et rejoint par tout un tas de gens comme moi qui n'étions pas au parti. Donc il a contacté le Cercle Gramsci et Guingois justement était abonné actif au Cercle Gramsci. Au début des années 2000, Guingouin nous avait confié son testament politique et philosophique qu'on a édité ici. Gatti est tombé sur le bouquin et a demandé à nous rencontrer. On a créé avec des gens du plateau, des gens d'Ambiance Bois, le maire de Perlevade, etc., un refuge. On l'appelle le refuge des résistances, mais c'est le refuge des résistances Armand Gatti. Et on lui avait demandé de nous écrire un texte pour notre petit bulletin. Et il a écrit un grand poème qui s'appelle « Les 5 ans de résistance de Georges Guingouin » qu'il a lu sur les lieux mêmes où il était arrivé au maquis, à Tarnac, à la Berbérolle.
Les 5 noms de résistance de Georges Guingouin.
Armand Gatti.
Ô forêt, seul langage inventé par la terre pour parler au soleil. Dans les grammaires possibles de l'univers, l'homme qui, pendant les congés payés, se fait bronzer le visage, entre-t-il en concurrence? L'homme ne parle aux forêts que pour les détruire. S'il vante l'affirmation chlorophyllienne, c'est pour dire que l'arbre se nourrit de sa verticalité, contrairement aux assassinats de végétaux et d'animaux dont il s'alimente pour être. Être. Pour les 5 noms de guerre de Georges Guingouin, c'est s'illuminer de destin d'étoiles, pronomaliser. Je, tu, vous, il, elle. Destin que nous ne pouvons que retrouver lorsque sur les cartes de gendarmerie, les forêts deviennent le mot maquis.
On ne produit pas n'importe comment, on travaille ensemble, on décide ensemble, on gère ensemble.
Merci à toutes et à tous, c'était Le Plateau Insoumis, un reportage d'Antoine Chao. Le premier reportage que nous avons réalisé dans le coin sur nos amis d'Ambiance Bois, c'était le 30 septembre 2004 et vous pouvez le retrouver sur la-bas.org. Merci à toutes et à tous, à tous les amis d'Ambiance Bois, Daniel Restoin, Thierry Letellier, Francis Juchereau, Michel Lulek. Vous pouvez trouver son bouquin Si on travaillait autrement, qui est disponible aux éditions Repas, Collection Pratiques Utopiques. Et puis pour aller plus loin, vous avez le site internet d'Ambiance Bois, très facile à trouver, ainsi que le site de Mémoire à Vif. Vous retrouvez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique émission là-bas si j'y suis. Vous pouvez réécouter également l'émission sur le site là-bas.org, là-bas.org. À la technique aujourd'hui, Sophie Moreno et Patrick Henry. Lucie Hakoun et Chloé Sanchez ont réalisé cette émission préparée avec Grégory Salomonovitch. Marion Dupas, quant à elle, attend vos messages sur le répondeur de là-bas si j'y suis au 01 56 40 37 37.
Nous allons certainement vers des temps difficiles, pleins de conflits.
André Gors.
Mais qui ont au moins ceci de passionnant, que nous savons que des possibilités de libération, d'émancipation, de développement et d'enrichissement de la vie s'offrent à nous qui n'ont jamais existé avant. Nous savons qu'il serait possible par exemple, de réduire la durée du travail de façon à ce que chacun puisse avoir plusieurs vies. Non seulement plusieurs vies l'une à côté de l'autre, une vie personnelle, conviviale, de citoyen, de militant, de parent très développé, mais aussi plusieurs vies successives. Commencer par être, je ne sais, ouvrier d'industrie, pour devenir ensuite médecin ou votre propre médecin, passer plusieurs années de votre vie à construire votre propre maison, de vos propres mains, développer de nouvelles technologies, ce qui ne demande pas nécessairement de grosses infrastructures industrielles, des technologies plus conviviales, permettant une plus grande part d'autoproduction rationnelle, apprendre à faire votre pain, etc., etc.
Un jogging toujours dans le même parc, c'est lassant. Alors depuis que j'ai gagné à Euromillion, je varie. Central Park, la Grande Muraille de Chine, les Maldives. Mais le mieux, c'est le Mexique. Je cours sur les marches du Temple Maya comme ça en même temps. Je fais du step.
Euromillion, et si votre vie devenait infiniment plus riche?
Tirage Euromillion le vendredi et le mardi. Ce vendredi, jackpot de près de 85 millions d'euros. À partager au rang 1, voire règlement.
FDJ. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Aujourd'hui, pour déclarer ses revenus, le plus simple, c'est d'aller sur Internet. Par exemple, si vous étiez trop occupé pour envoyer votre déclaration, ou que vous ne pouviez pas poster votre déclaration à temps...
Oui, non, mais en fait, c'est parce que je me suis fait enlever par des extraterrestres, mais comme ils sont pas très bons en géographie, ils m'ont déposé très loin de chez moi, et du coup, le temps que je rentre...
Avec la télédéclaration, vous avez un délai supplémentaire pour déclarer vos revenus. En quelques clics, c'est fait. Et pour cela, rendez-vous sur impots.gouv.fr.
La télédéclaration, pensez-y, ça vous simplifie la vie.
Ceci est un message du ministère de l'Économie et des Finances.
France Inter, France 2 et le Parc de la Villette présentent du 7 au 30 juin Barthabas et l'Académie du spectacle équestre de Versailles à la Grande Halle. Au programme We Were Horses, spectacle envoûtant de Caroline Carson et Barthabas. 5 soirées inédites où Barthabas improvise avec des créateurs de tous horizons. Alexandre Tarot, Michel Onfray ou encore Jean-Guyenne Keras. Et enfin les matinales des écuyers, séance de dressage tous les jours. Retrouvez Barthabas au Parc de la Villette, dans les émissions de France Inter et sur franceinter.fr.
France Inter, partenaire du Festival du Mot, du 29 mai au 2 juin à la Charité-sur-Loire. 5 jours pour mêler bonheur de réfléchir et plaisir de vibrer avec les mots. Spectacle, animation, exposition, conférence, ateliers, performances, projections et bien d'autres surprises. Une manifestation unique en France qui mêle toutes les formes artistiques autour du mot. Et l'occasion de découvrir un site exceptionnel, devenu Cité du Mot en 2012. Retrouvez le Festival du Mot dans 3D le journal, dimanche 26 mai à 13h30 et sur franceinter.fr.
Bon, samedi, c'est...
le jackpot de la fête des mères, Coche Loto.
10 millions d'euros à gagner, alors on y va, hein.
Montant à partager au rang 1, voire règlement. Jouer avec XC comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
On se retrouve lundi à 15h pour La Basse, si j'y suis. Il est 16h sur France Inter. Les infos, Laetitia Gaillet.
Un avion chasseur de la Royal Air Force a escorté cet après-midi un avion de ligne pakistanais. Il était attendu à l'origine à Manchester, en Angleterre. Il s'est finalement posé à Stansted, à une soixantaine de kilomètres au nord de Londres. Le ministère de la Défense britannique ne donne pas beaucoup plus d'informations. A priori, selon la police du comté de l'Essex, un incident s'est produit en vol sans qu'on en connaisse la nature, mais il ne s'agirait pas là d'un acte terroriste. L'avion venait de Lahore au Pakistan et il avait à son bord 297 passagers. Et on apprend à l'instant que 2 passagers de cet avion dérouté ont été interpellés. Manuel Valls réaffirme cet après-midi son avertissement. Les actes homophobes, racistes de certains individus liés à des organisations seront poursuivis par la justice. Et selon le ministre de l'Intérieur, cela pourra conduire à l'interdiction de leur groupe. Viser le printemps français, notamment, qui a fait scission avec la Manif pour tous en mars dernier. Dans le cadre de la lutte contre le mariage homosexuel, le printemps français appelle à des opérations coup de poing en direction de personnalités ou de ministres. Dimanche, la manifestation contre le mariage gay devrait encore rassembler beaucoup de monde à Paris.
Brigitte Barjot, la porte-parole du mouvement, affirme elle aujourd'hui qu'en raison des menaces dont elle fait l'objet de la part de militants d'extrême droite, elle ne pense pas défiler ce week-end. Deux Français sur trois souhaitent une droite plus modérée, c'est ce que dit aujourd'hui un sondage BVA pour iTélé. Enquête qui révèle également que plus de la moitié des sympathisants UMP veulent au contraire une droite plus affirmée. Le sondage a été réalisé mercredi et jeudi auprès d'un millier de personnes âgées de plus de 18 ans. Le Parti communiste scandalisé aujourd'hui à Marseille, une de ses candidates aux dernières législatives dans les Bouches-du-Rhône, a décidé de rejoindre le Front National. Et c'est sous ses couleurs qu'Anna Rosso-Roac sera candidate pour les municipales de l'an prochain. L'audition de Christine Lagarde devant les magistrats de la Cour de justice de la République continue cet après-midi, 12 heures hier et sans doute la même chose aujourd'hui. L'ancienne ministre de l'économie est entendue sur son rôle dans le règlement du contentieux tapis lyonnais. Dans l'affaire de la vente de l'hippodrome de Compiègne, cette fois dans l'Oise, le tribunal administratif recommande cet après-midi l'annulation de la vente. L'ancien ministre du budget, Éric Woerth, est visé par une enquête de la commission d'instruction de la CJR pour prise illégale d'intérêt de cette vente donc. En Espagne, la justice s'apprête à enquêter sur la fille du roi dans le cadre de l'enquête de corruption qui vit son époux. L'infante Cristina est soupçonnée d'un possible délit fiscal. Retour en France pour rattraper son retard par rapport à ses voisins européens. La France devrait compter au moins 8000 recharges de véhicules électriques d'ici la fin de l'année. C'est ce qu'affirme aujourd'hui Bercy. Actuellement, la France n'en compte qu'environ 5000 et la grande majorité est située à Paris. 3,7 degrés à Paris au petit matin, c'est la température la plus basse enregistrée dans la capitale un 24 mai depuis 1887. Ce plus bas niveau historique reste toutefois anecdotique selon Météo France, qui précise aujourd'hui que c'est sur la durée que le phénomène est plus intéressant à étudier. Vous écoutez France Inter, 16h03.
Je suis Tony Visconti avec Valley sur Pop Etc.
Son nom ne vous parle peut-être pas, mais il vous a déjà fait chanter. Véritable homme de l'ombre, c'est le producteur aux manettes du dernier album de David Bowie. Mais aussi The Heroes, Get It On de T-Rex, ou encore C'est Comme Ça d'Erita Mitsuko. Je l'ai rencontré à New York, dans son studio, pour une interview exclusive. Pop Etc. avec Tony Visconti, c'est ce soir, à partir de minuit.
À tout à l'heure.
France Inter.
La voix est libre.
Et tout de suite, on a rendez-vous avec vous, Sylvie Chapelle.
Mais oui, ouais. Laetitia Gaillet.
On parle musique.
Oui, un jour je vous garderai et puis on parlera musique ensemble.
Ah ouais.
Très bien.
Ça marche.
On vous retrouve à 17h.
À tout à l'heure.
Vous êtes un musicien passionné, attiré par ça. Mais à Cuba, il y a plus de médecins qu'un musicien, par exemple.
Moi, j'ai toujours été fascinée par les gens un peu excentriques. Des gens comme Bowie, comme Gainsbourg, ils investissaient ce champ du dandisme.
Dans la culture anglo-saxonne, on a plus tendance à considérer la voix comme un instrument qui dialogue.
Il ne faut pas diriger pour le public. La musique doit arriver. On ne dirige pas pour le public, non. Ce serait ridicule.
Je vis dans une époque très riche.
Avec Sylvie Chapelle.
Je vois tout le bazar qui se passe, quoi.
On parle musique.
Incroyable.
Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez. Il y a vraiment des moments où vous avez raison d'écouter France Inter. On se réjouit de vous offrir cette prochaine conversation musicale. Elle est sans aucun doute la plus grande organiste de jazz du monde. Les professionnels comme le grand public sont d'accord. Mais le son de son orgue à Mont traverse tous les styles de musique. The Barefoot Lady est avec nous, la femme aux pieds nus. Chers auditeurs, on parle musique avec Rhoda Scott. Bonjour Rhoda Scott.
Bonjour.
Je vous souhaite la bienvenue. Nous sommes bien sûr ravis de vous recevoir. J'ai déjà reçu des quantités de messages, heureux de votre venue ici. Surtout que vous deviez venir il y a quelques mois et puis on a dû annuler au dernier moment. Tout le monde vous aime, tout le monde. C'est incroyable, tout le monde vous admire. Est-ce que vous êtes consciente de cette admiration générale?
Ben, je dois dire que lors de mes concerts en France, je ressens l'amour qui me vient vers moi, mais je pense que c'est réciproque aussi.
Je vous pose la question parce que vous avez joué avec les plus grands. Pourtant, on dirait que vous êtes encore timide quand on vous demande avec qui vous aimeriez jouer. Vous dites que... Il ne faut pas trop que vous admiriez les artistes parce que vous seriez paralysé par le trac. Vous n'avez pas l'impression d'être au même niveau? Ou bien c'est nous, ou bien on se trompe, nous?
Je trouve moi-même que je n'ai pas le niveau que j'aimerais avoir. Je sais ça. Mais je pense que c'est le public qui me porte et la musique me porte. Mais j'ai toujours peur d'être dévoilée. et je perds mes moyens. Comme pour parler, quand j'essaie de bien faire, je fais moins bien.
Vous avez le trac encore?
J'ai toujours le trac.
Et vous aimeriez être... Quel niveau? J'essaie de comprendre.
J'aimerais, en fait, j'aimerais être incroyable. Parfaite.
Personne ne l'est. Il y a tellement de lumière en elle. C'est ce que dit l'un de vos derniers complices, David Lynx. On va vous entendre avec lui. C'est votre écoute du moment. L'un des derniers albums auxquels vous avez participé à sa demande. Pourquoi vous aimez ce projet? Qu'est-ce qui vous a plu?
David et moi, on a eu l'opportunité de faire de la musique ensemble lors d'un festival. Et je me suis rendu compte qu'on communiquait entre nous avec la musique. Et quand il m'a suggéré un enregistrement, j'étais partant parce que j'avais vu son âme est beau.
Son âme est belle.
Est belle. Belle. Et j'ai voulu le faire. Et puis, j'ai découvert c'est un perfectionniste aussi. Et il est presque arrivé à me rendre parfaite.
Comme quoi. Vous avez d'abord joué ensemble en concert avant d'enregistrer cet album.
Tout à fait.
Ce sont les compositions de David Lynx. Il a dit « J'avais envie de trouver un chemin commun dans lequel on se retrouverait mutuellement. J'ai conçu le disque autour d'elle et d'André. » Il s'agit d'André Ceccarelli. On va écouter l'un donc, des titres de cet album, « Rock My Boat ».
I've been waiting for a sign from you, but don't you rock my boat, don't. I was holding my heart way too tight, just a single note, don't. I had a bloody fist full of questions, yeah. A thick pad full of quotes, I had a pad full of. Still my heart is crying out the more. I couldn't drop the load. I see the whole wide world go to pieces, but I'm trying to stay on that boat. Now don't you rock my boat. 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 I've been waiting for a sign from you.